Radio Kapi. Oh, Kapi.
Vous écoutez Radio Kapi, il est 18h à Kinshasa, voici un nouveau journal. La police nationale a empêché ce lundi le sit-in des forces sociales et politiques devant la CENI ici à Kinshasa. Les manifestants voulaient exiger l'indépendance de cette institution d'appui à la démocratie. 624 cas de viol sur mineurs documentés à l'issue d'une enquête menée dans les zones de santé de Katoka, Tshibala et Tshimbulu. La Lisadel Kananga envisage une prise en charge holistique et juridique pour aider les victimes. Notre invité, c'est le chef de division du plan de la Tshopo, Norbert Musunga, parle des actions envisagées par la revue annuelle entre la RDC et l'UNICEF pour la Tshopo et le Bazouélé, dont les travaux ont eu lieu à Kisangani. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Au micro, Pascal Masirika, mise en nom de Dieudonné Nyangassa. La police nationale a empêché ce lundi le sit-in prévu devant la CENI par le conseil de l'apostolat de laïcs catholiques du Congo Kalcc et le ministère de laïcs protestants ainsi que le FCC et la Mouka. Les manifestants exigeaient l'indépendance de cette institution d'appui à la démocratie. Les voies menant au siège de la CENI dans la commune de la Gombe étaient quadrillées tôt ce matin par la police. Les agents de sécurité ont filtré les entrées dans le périmètre de la CENI. On écoute tour à tour Jean-Pierre Lissanga-Bonganga, coordonnateur de la dynamique pour la sortie de crise, Prince Epengé, cadre de la Mouka, Dieudonné Mouchagaloussa, coordonnateur du panel des experts de la société civile et Jeff Pambi du ministère de laïque protestant dans ce propos recueilli par Paul Matendo.
Bon, la situation est telle que le peuple congolais a répondu présent, sauf qu'il y a eu des cas malheureux où d'abord on commençait par le blocus autour du site prévu, ainsi que toute la ville pratiquement de Kinshasa a été, le centre-ville en tout cas, a été quadrillée.
Donc en ce moment, vous n'avez pas pu accéder au site de la CENI. Est-ce que toutes les autres forces politiques et sociales, FCC, la Mouka, CALCC, est-ce que vous êtes ensemble en ce moment?
Nous sommes ensemble, présentement que nous parlons, nous sommes dans le parage, en tout cas dans le périmètre.
En ce moment, est-ce qu'il y a eu par exemple des arrestations, des affrontements avec la police ou tout est vraiment calme, il n'y a rien à signaler?
Des affrontements en tant que tel, non, mais il y a eu des bousculades de la police qui repoussaient des attroupements de la population qui s'élevaient pour tendre vers le site voulu. Mais quant aux arrestations, il y en a un nombre. Je vois là-bas à peu près 8 qu'on me reporte du côté de la BCDC, y compris des femmes. Et on m'a reporté aussi d'autres venant du côté de Tshangu.
On écoutera Jean-Pierre Lissanga Bonganga, Epengé et Mouchagaloussa dans les prochaines heures. Vive tension jeudi dernier à Djombo, dans le secteur de Gombalo, situé à 90 km de Bassankoussou dans la province de l'Équateur. Les deux communautés Ngombe et Mongo s'affrontent avec des fusils de chasse et à l'armée blanche. Le bilan dressé par des témoins fait état de blessés graves et plusieurs maisons incendiées, pomme de discorde. La suspension du chef de secteur de la tribu Ngombe qui aurait dressé ses frères contre son intérimaire et sa communauté Mongo. Pour en parler, retrouvons en Mbandaka Paul Richard Malingela.
Selon le président de la société civile de l'Équateur en tant que territorial de Bassankoussou, la tension reste très vive à Djombo depuis jeudi dernier. Ce lundi encore, malgré l'arrivée d'une délégation venue de Mbandaka, une autre personne a été blessée par fusil de chasse, ce qui porte à 5 le nombre de personnes blessées graves et toutes les victimes admises à l'hôpital appartiennent à la tribu Mongo. Ces derniers sont pourchassés par les Ngombe majoritaires. Leurs maisons ont été également incendiées. Ils se sont réfugiés aux portes de Djombo en attente d'une éventuelle évacuation vers Bassankoussou, a indiqué que Jean-Louis Wangela.
Ce n'est pas jeudi, on a pris des maisons, comme des bâches étaient pillées, les gens sont tombés dans des forêts, et l'insécurité totale, ce que les deux préparent les gens de Tibi Mambo à Djombo. C'est ça l'insécurité, le tribalisme, qui peut engendrer même la xénophobie. Les populations mongo-mélées se sont refusées autant, puisqu'on a pris la maison.
À l'origine de cette tension, a ajouté notre source, c'est un conflit administratif qui a été politisé et fortement tribalisé.
La tête au secteur, il a fait appel à sa population. Les gens sont venus
le gouverneur intérimaire de la province de l'Équateur, Alain Lodji, joint au téléphone en pleine réunion du comité provincial de sécurité, a reconnu la situation. Il a promis de se prononcer plus tard sur les dispositions prises face à ce conflit intercommunautaire. Bandaka, prochain Malingué, la radio Okapi.
Au Nord Kivu, pendant 7 ans, 2 attaques ont été enregistrées la nuit dernière dans le groupement de Banandekainama dans le secteur de Rouenzori. Bilan, une personne tuée, des habitants pris en otage et des biens pillés. La société civile locale appelle les FARDC à sécuriser cette partie du territoire. À Beni, une correspondance de Guylaine Kassassia.
La première attaque a eu lieu à Mwenda dans le secteur de Rouenzori. Selon des sources de la société civile locale, des présumés EDF venus du parc de Virunga ont tué une personne, blessé une autre et pris un enfant en otage. Meleki Moulala, son président, ajoute que les assaillants ont pillé certaines maisons d'habitation. La même source fait savoir que cette attaque a eu lieu alors que les services de sécurité avaient été informés d'un mouvement d'hommes armés dans cette partie du territoire. Pour l'instant, révèle Meleki Moulala, une psychose règne dans la localité de Mwenda qui venait de totaliser 3 mois sans avoir enregistré une seule attaque. À Kainama, ce sont les localités de Kakuka et Kingamuviri qui ont été attaquées au cours de la même nuit par les hommes armés. Bienfait Baraka, membre de la société civile de Kainama, parle de plusieurs personnes portées disparues après cette attaque et de plusieurs maisons y sont tillées. Toujours selon la même source, les assaillants ont fait face à une position de l'armée qui leur a barré la route alors qu'ils tentaient de progresser dans leur attaque. Il y a eu échange des tirs. Contacté, l'administrateur du territoire affirme les 2 attaques sans donner les bilans, expliquant que l'armée poursuit les hommes armés. Le colonel Charles Euta Omeonka appelle la population à collaborer avec l'armée en dénonçant tout déplacement d'hommes armés. Beni, Gulen Kassassia, Radio Okapi.
Non loin de là, en Ituri, les FARDC ont récupéré ce lundi le centre de Ndrodro, situé à environ 60 km au nord de la ville de Bounia, en territoire de Djougou. Cette entité a été occupée hier après-midi par des miliciens de l'Union des révolutionnaires pour la défense du peuple congolais. Ce, après une attaque d'une position des FARDC. Bilan provisoire, 12 civils tués, en majorité des déplacés. Un mouvement de la population est observé dans la région. Le récit de Martial Kizabiamungu.
C'est très tôt ce lundi matin que les FARDC ont repris les contrôles du centre de Drodro après les retraits des miliciens du groupe armé URDPC Barkodeko qui ont investi cette entité pendant quelques heures. Selon plusieurs sources concordantes, les dégâts sont énormes sur place. Les abris d'une position avancée des FARDC essaient de déplacer incendiés. L'armée signale également les meurtres de 12 civils dont les corps ont été découverts au centre de Drodro. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de FARDC à Ditouri.
Drodro et tous ses environs sont passés sous contrôle de forces armées après avoir protégé les déplacés par les forces armées en donnant un couloir jusque d'aller se réfugier au camp de la MONUSCO. Il y a 12 corps que nous avons vus ce matin.
D'autres sources parlent de 15 corps de civils déjà enregistrés. Elles ajoutent que ce bilan pourrait s'alourdir car la fouille continue. La société civile locale indique que plusieurs familles se sont déplacées vers Largo et Ro, toujours en chefferie des Baïma Nord. La MONUSCO pour protéger les civils a installé provisoirement une base à côté du site de déplacés de Drodro. Notons qu'environ 7 villages ont été attaqués par les assaillants de la Côte d'Eco au cours de la seule journée de dimanche. Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Revenons un instant au Nord Kivu où la société civile appelle la population à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité pour faciliter la protection des civils dans la région de Beni. Cet appel intervient au lendemain d'un incident survenu à Kiondo où des jeunes ont empêché les casques bleus de la MONUSCO d'intervenir alors qu'ils tentaient de répondre à une alerte sécuritaire. À Butembo, grâce à Mouzati.
Edgar Mateso, vice-président de la société civile du Nord Kivu, insiste sur le fait que la population doit faire preuve de vigilance et pas d'amalgame. Il appelle les forces onusiennes et les FARDC à renforcer leurs mécanismes de protection pendant cette période où l'insécurité s'accentue dans la région.
Nous demandons à chaque habitant du Nord Kivu d'être prudent, mais aussi de maintenir la vigilance, de telle sorte que nous puissions éviter de véhiculer des rumeurs qui n'ont pas de fondement. Sinon, nous risquons de nous retrouver en train de travailler au compte de l'ennemi au lieu de renforcer les éléments qui viennent à notre rescousse. Lorsque nous voyons les phares de CE ou les casques bleus qui sont dans une mission de protection, nous devons être à mesure de collaborer avec ces forces afin que nous puissions trouver notre protection.
Cet appel est aussi lancé par l'armée. Le capitaine Anthony Mwalushai, porte-parole des opérations Sokola Ingrat Nord, indique que la MONUSCO reste le principal partenaire des phares d'essai dans la recherche de la paix. Pour sa part, Abdourahmane Ganda, chef des bureaux intérimaires de la mission onusienne à Beni, invite les habitants à faire confiance aux autorités, aux phares d'essai et aux forces onusiennes pour rétablir la paix dans cette partie du pays en proie à l'insécurité. Boutembo, grâce à Mzati, Radio Kapi.
Dans un autre chapitre au Kasaï central, plus ou moins 624 cas de viol sur mineurs ont été documentés cette année dans trois zones de santé par la Ligue de la Zone Afrique pour les droits des enfants et des élèves. Révélation faite ce lundi à Kananga après une enquête qui a été menée sur le terrain dans le cadre du fonds humanitaire. Citant les zones de santé de Katoka, de Tchibala et de Tchimbulu, le coordonnateur de la LISADL affirme qu'une prise en charge holistique et juridique est envisagé pour aider les victimes. Jean Malice Lungala le dit à François Kadima.
D'abord, au niveau des trois zones de santé, nous avions ouvert ce que nous appelons les CISM, c'est-à-dire les centres intégrés des services multisectoriels, dans lesquels nous avions placé un APS pour d'abord toute personne qui est sexuelle. Et nous, il y avait un assistant psychosocial. Nous avions aussi un juriste dans les bureaux. Nous avions aussi un psychologue pour assurer les reprises en charge médicale. Mais il faut aussi relever que c'était un projet d'une prise en charge holistique. C'est pourquoi nous avions fait d'abord les référencements médicaux, nous faisions l'assistance juridique et judiciaire, nous faisions l'assistance l'accompagnement psychosocial et évidemment aussi la réinsertion. La tranche d'âge varie généralement entre 11 ans et 17 ans pour la plupart des jeunes filles. Et les profils des bourreaux, c'était généralement les personnes civiles qui étaient soit des voisins, des gens dans les sources d'eau comme dans les villages, les enfants partaient puiser de l'eau à la source. Exceptionnellement, nous avons seulement connu, je crois, un seul cas de deux policiers, mais qui étaient d'ailleurs, qui avaient déjà pris fuite.
Nord Kivu encore, le président du Parlement d'enfants de Beni demande aux parents de prendre soin de leurs enfants pendant cette période de sauterelle. Blessing Mouteoulé affirme que certains enfants ont été blessés la nuit dans les lieux de piège des sauterelles et que d'autres souffrent de maux d'yeux du fait de la forte lumière des projecteurs installés sur ces pièges. Il s'est confié à Marc Marofimo.
En fait, cette situation n'est pas surtout bonne. J'aimerais interpeller les enfants de bien gérer cette situation, même aux parents d'écarter leurs enfants, parce que les enfants sont en train de passer une nuit à l'extérieur, sont en train de perdre même l'éducation à l'école, ne partent pas à cause de cette période. Alors, comme interpellation, j'aimerais seulement dire aux parents de sensibiliser leurs enfants, de les garder à la maison, en fait de ne pas aller en danger là où il y a des pièges de sauterelles. Et puis, au gouvernement, seulement interpeller la communauté, interpeller aussi les parents, et aux enfants de bien gérer leurs responsabilités parce que c'est toute personne qui gère d'abord sa responsabilité lui-même. On raconte toujours des cas parce qu'il y a des enfants qui sortent là-bas, les yeux font mal, les yeux gonflent à cause de la lumière des projecteurs. Il y a toujours des cas néfastes par rapport à cette période. Et nous voulons vraiment que cette fois, que ça ne soit pas exagéré, que les enfants se réservent, même les parents réservent leurs enfants.
Revenons à Kinshasa où l'Assemblée nationale dénonce l'exploitation illicite des minerais dans les territoires de Mwenga, constat fait lors d'une mission effectuée en septembre dernier dans la province du Sud Kivu. À la présentation du rapport de cette mission au cours de la plénière de jeudi dernier, le député national Claude Kivala, président de la commission, a précisé le contexte de cette mission parlementaire. Le rapporteur de cette commission a indiqué que les entreprises minières s'enrichissent, se comportent comme maîtres en territoire conquis, détruisent l'environnement, polluent les eaux avec la complicité des services de l'État. Les propos de Dédé Moupassa ont été recueillis par Michel Kifindangoy.
Il y a un grand groupe qui a les titres miniers, Bandro, qui s'est transmis à deux autres sociétés. Et ces deux sociétés ont signé des contrats avec des artisanaux. Et ces artisanaux, à leur tour, ont signé des contrats avec des Chinois qui exploitent le minerai là-bas d'une manière industrielle. Et sur terrain, il n'y a pas de contrôle. Ce sont des services de l'État, ici je vais parler de l'armée ou la police, qui surveillent ces mines-là qui sont exploitées illégalement. Et ça empêche aux tenants de tactique d'administration du pays d'accéder. Et tout cela, c'est sous contrôle des autorités locales. On a demandé à ce qu'on puisse revisiter le contrat de Bandro, du groupe Bandro. Et aussi, on a demandé qu'on puisse indemniser les populations victimes de cette exploitation qui a conduit à des pollutions, à la destruction des cimetières et voire même des forêts, des champs et des étangs.
Actualité internationale.
En Libye, à la veille de la clôture du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle, le Premier ministre par intérim Abdelhamid s'est également déclaré candidat ce lundi après Saïf al-Islam Kadhafi ou l'ex-maréchal Khalifa Haftar. C'est une candidature controversée de plus à un mois d'une élection toujours plus incertaine. La Maison Blanche a annoncé ce lundi après-midi la reconduction de Jerome Powell comme président de la Banque centrale américaine pour un second mandat de 4 ans. Ce choix marque ainsi pour le président Joe Biden une volonté de continuité et de consensus entre républicains et démocrates. Jerome Powell, âgé de 68 ans, dirige la puissante réserve fédérale depuis 2018 après avoir été choisi par l'ancien président Donald Trump. Son action pendant la crise liée au coronavirus avait été saluée à droite comme à gauche, mais certains progressistes américains avaient réclamé son remplacement pur et simple. Reste au Sénat américain de le confirmer à ce poste stratégique.
L'invité.
Notre invité, c'est le chef de division du plan de la province de la Tchopo. Norbert Musunga parle des actions engagées par la revue annuelle RDC UNICEF pour les provinces de la Tchopo et du Bazouélé. C'était samedi dernier au restaurant La Bourgeoise de Kisangani. Il s'entretient avec Jacques Mkongolé.
Docteur Norbert Musunga, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous venez de clôturer ici à La Bourgeoise les travaux de la revue annuelle 2021. En quoi ont consisté ces travaux?
Merci beaucoup. Vous savez, lorsqu'on organise une revue, la chose ou l'activité sera centrée beaucoup plus sur l'évaluation du parcours qui a été suivi depuis le début de l'année jusqu'à la fin. En ce qui concerne l'implémentation du programme de coopération RDC-UNICEF à travers ce plan de travail roulant. Et cette fois-ci, si la revue a concerné beaucoup plus le plan de travail roulant 2021 pour avoir déterminé les progrès et évaluer également les réussites vis-à-vis de la mise en œuvre de ce programme. Également, ça n'a pas été seulement une évaluation simple, mais il y avait aussi une évaluation de certaines actions traceuses prônées par l'UNICEF à travers la programmation. Alors, on a parlé de monitorer ces actions et aussi une troisième étape, c'était la formulation du plan de travail 2022-2023.
Quelles sont les actions qui ont fait l'objet de cet état des lieux?
Bon, les actions qui ont émergé dans cet état des lieux, nous avons plutôt les 5 programmes que UNICEF est en train d'appuyer à travers la République démocratique du Congo.
Quels sont ces programmes?
Pour les 2 provinces de la Tchopo et du Bazouélé. Il y a, en premier lieu, c'est le programme santé. En second lieu, c'est la nutrition. En troisième lieu, c'est l'eau, hygiène et assainissement. Et en quatrième lieu, c'est la protection des enfants, dont on parle de la gouvernance pour la protection de l'enfant. Il y a également l'éducation de qualité pour tous. Et il y a aussi le 6 4D, que nous appelons la communication pour le développement. Et enfin, Il y a une composante qui est transversale, le PPMK, qui se charge de suivi, évaluation, dont je suis l'organe lead de pouvoir évaluer.
Du constat qui se dégage, peut-on dire qu'il y a eu progrès ou non dans l'organisation de toutes ces actions?
Oh, certainement, ça je peux affirmer, sans moindre erreur, qu'à travers toutes ces activités, à travers les composantes qui ont été évaluées, les composantes qui constituent CPTR à travers le programme RDC-UNICEF, l'évaluation a abouti à une note positive. Ce qui fait qu'il y a des progrès qui ont été suffisamment réalisés, tant sur la consommation du budget qui était mis à disposition des partenaires que sur les résultats obtenus par rapport à ces résultats qui ont été escomptés.
Qu'est-ce qui a favorisé cette performance?
Bon, cette performance a été favorisée d'abord par le lien d'attente qui unit les partenaires de terrain et notre partenaire UNICEF, et aussi la disponibilité des fonds que l'UNICEF a mis à la disposition pour implémenter le programme, et également la conscience des acteurs sur terrain pour réaliser ces activités en vue de l'amélioration de la situation des enfants et des femmes.
Pour l'année prochaine, y a-t-il des améliorations à apporter? Dans quel domaine?
Oui, je crois dans tous les domaines, puisqu'il était donné à chaque composante de pouvoir envisager des activités que la composante trouve utiles et importantes pour pouvoir joindre à celles qui existaient par le passé. Ou encore, s'il y a des activités qui ont été achevées, on ne peut plus les reprendre. Mais essentiellement, il y a de nouvelles activités qui vont s'ajouter en vue de pouvoir baliser et étayer le chemin pour mieux implémenter le programme.
Monsieur le chef de division du plan pour la province de la Tchopo, merci.
C'est à moi de vous remercier, monsieur le journaliste.
C'était l'invité de Radio Okapi, le chef de division du plan de la Tchopo, Norbert Musunga, était interviewé à Kisangani par Jacques Mkongole. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci d'avoir écouté. Merci infiniment à Élise Chikota Mwambui et Alain Rungmouchich qui m'ont accompagné. Retrouvez cette édition d'information sur www.radiokapi.net.